La cathédrale Notre-Dame de Paris va prochainement accueillir une nouvelle statue réalisée en Aveyron.
La statue de Saint-Martin va retrouver sa place le 4 avril à Notre-Dame de Paris. Un travail de haute précision réalisé en Aveyron par l'entreprise Vermorel. Son directeur Quentin Muller est l'invité de Radio Présence. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors demain sera le grand jour, la statue de Saint-Martin va être hissée à plus de 50 mètres de haut. Est-ce que vous y serez, Quentin Muller?
Alors écoutez, a priori normalement je serai sur Paris.
Ah.
Et le grand jour, bah, ça reste toujours suspendu à des conditions très concrètes, météo.
Oui.
Y aura-t-il du vent ou non?
Oui.
Donc, à ce stade, on ne sait pas encore finalement si ça sera demain ou peut-être vendredi ou peut-être la semaine prochaine.
Aïe.
Il reste une certaine incertitude. Voilà.
Bon, alors, elle va être fixée à quel endroit exactement sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, cette statue?
Cette grande statue fait partie de l'ensemble de trois grandes figures, le Christ, Saint-Étienne et Saint-Martin, et qui ornent le fronton du bras de transept sud, donc qui vraiment couronne ce bras de transept du côté de la Seine, du côté sud.
Ah oui, c'est ça. Et vous avez réalisé juste cette statue de Saint-Martin, vous ne vous êtes pas occupé de celle du Christ et de celle de Saint-Étienne?
Alors, en fait, celle du Christ a pu être conservée. L'original qui avait été sculpté sous la directive de Eugène Viollet-le-Duc, le grand restaurateur de la cathédrale au XIXe, a pu être conservé et sauvé. Et Saint-Étienne et Saint-Martin ont dû finalement être remplacés. Donc, nous sommes occupés de Saint-Martin et Saint-Étienne a été sculpté par notre co-traitant, une autre entreprise de sculpture du sud de la France.
Alors vous me disiez que cette sculpture de la statue de Saint-Martin n'était pas du tout prévue parce qu'en fait vous avez réalisé beaucoup d'autres œuvres, beaucoup d'autres statues et ornements pour la cathédrale Notre-Dame de Paris et finalement c'était une petite surprise. Cette statue de
C'était
Saint-Martin.
Une grande
Une
surprise.
grande.
Ouais, c'était une grande surprise et je ne parle pas seulement de sa dimension, qui en fait la plus grande sculpture qui va être changée durant cette phase de travaux initiale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie, mais je parle évidemment de la dimension beaucoup plus large par rapport à l'ensemble de notre travail. Effectivement, nous avons commencé un chantier d'un peu plus d'un an, donc il y a au mois de janvier 2023. Qui était un chantier partagé avec notre co-traitant que j'évoquais à l'instant, l'entreprise Bouvier, avec lesquels nous avons restitué un grand nombre d'ornements, soit d'ornements feuillagés, ornements vraiment un petit peu réguliers, sériels, on va dire, hein, des feuillages, des crochets sur les pinacles, et puis aussi des ornements beaucoup plus imagés, en particulier des têtes de chimères qui étaient disposées sur les tourelles qui,
Ah oui.
Bordent de chaque côté ces pignons nord et sud des bras de transept. Et en fait, cette grande statue, elle est arrivée comme une magnifique surprise au moment où les experts, notamment les gens du LRMH, du Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, qui sont associés à la surveillance du chantier d'un point de vue technique et scientifique, se sont rendus compte qu'elle avait été trop exposée à la chaleur de l'incendie. Il faut comprendre que nous sommes sur les pignons qui sont finalement les murs qui sont adossés à la charpente, donc qui ont été adossés au brasier au moment de l'incendie. Et la pierre calcaire n'a pas supporté la chaleur. Il faut se souvenir que la pierre calcaire, lorsqu'elle est vraiment chauffée, devient de la chaux, hein, est à la fois affectée dans sa structure parce qu'elle elle va pouvoir éclater selon les différentes températures qu'elle atteint, et puis elle va être modifiée même dans sa chimie, dans sa structure chimique. Et c'est ce qui est arrivé à cette sculpture qui, de l'extérieur, présente encore ses formes et tout à fait lisible. À ce titre, je pense qu'elle rejoindra le musée à un moment donné de
Eh oui,
Notre-Dame.
elle sera
Mais
visible. Oui.
voilà, mais elle avait été affectée dans sa solidité à long terme. Il a donc été choisi par les architectes en chef qui font la maîtrise d'œuvre de ce chantier de la remplacer afin qu'elle soit pleinement présente pour des années, des années. J'ose pas dire ce
Des
qu'on peut
siècles.
imaginer, mais c'est peut-être des siècles hein, si
Et
tout
oui,
se passe bien. Voilà,
quand on
exactement.
construit une cathédrale, on voit plutôt, on calcule en siècles. En tout cas, c'est un grand désir. Cette statue, vous disiez qu'elle était très grande. Elle fait quelle taille?
Alors, c'est une statue qui fait très précisément 2,57 m. Donc, il faut imaginer une statue beaucoup plus grande que nature même, hein. C'est assez imposant, évidemment. Il faut aussi le rapporter à l'endroit auquel elle se situe, hein, sur l'édifice. On est à effectivement plus de 50 mètres, 55 mètres de haut. Et donc là, elle a finalement une proportion tout à fait adaptée à l'ensemble des proportions de l'édifice. Mais c'est vrai que quand on est à côté dans l'atelier,
Elle vous paraît
ben, elle
immense.
impose, elle nous paraît immense, elle est objectivement vraiment très grande, elle est imposante. Ouais. C'est une des plus belles pièces qui est sortie de l'atelier Vermeulen depuis des décennies, depuis sa création.
Ah oui, c'est ça. Ouais, quelle belle surprise, comme vous disiez. Cette statue de Saint-Martin, elle est dans quelle est la posture de Saint-Martin, hein? Quels sont ses vêtements? Est-ce que vous pourriez nous la décrire
Oui,
quand on
bien
y va?
sûr. Saint-Martin est en habit d'évêque, en fait, hein, puisque il n'est pas dans cette posture qu'on voit parfois du légionnaire romain, du centurion romain, partageant son pallium. Mais là, il est dans son habit d'évêque, dans une position assez hiératique, avec des très beaux plissés. Il tient dans sa main sa crosse et, en fait, il tourne le regard sur son côté sénestre, en montant la tête pour aller voir justement la figure du Christ qui trône au sommet du fronton, quelques mètres au-dessus de lui. Donc il y a une posture à la fois assez posée, hein, mais néanmoins quand même très vivante dans ce mouvement de la tête et ce regard porté un petit peu au-dessus de lui, qui lui donne à la fois une grande majesté, hein, à cause des habits, de la mitre, la crosse, et puis une belle humanité aussi dans le regard qu'il porte au Christ qui le surplombe légèrement sur ce fronton.
Alors, est-ce que tous ces détails, on les voit de 50 mètres plus bas?
C'est
Ah,
toujours l'enjeu, ça, n'est-ce pas?
oui, c'est ça.
On se demande toujours finalement à quoi bon, est-ce qu'on doit aller dans des détails aussi précis? On est surpris parfois, hein, tout au sommet des cathédrales, que ce soit Notre-Dame de Paris ou Notre-Dame de Rodez, que j'ai
Que vous
la
avez aussi
chance de
restauré.
restaurer depuis voilà, une trentaine d'années, un petit peu moins, 25 ans. Eh bien, oui, je pense qu'on les voit. Alors, on ne les voit pas forcément en les percevant précisément, puisqu'effectivement, il y a des détails de l'habit, des broderies, des choses assez fines que concrètement on sait qu'on ne peut pas voir. Mais je pense que l'ensemble donne une impression générale qui, elle, transparaît quel que soit l'endroit où l'on est. Et à chaque fois, il faut imaginer que les sculpteurs, que ce soit les sculpteurs moyenâgeux ou que ce soit les sculpteurs de Viollet-le-Duc au XIXe siècle qui réinventent quelque part une image moyenâgeuse un peu fantasmée, eh bien, ils ont en tête l'endroit, l'altitude où sera la statue par rapport à l'œil de celui qui passe en dessous. Ils vont réfléchir au dessin en fonction de l'angle sous lequel on va regarder ces statues. Et on sait très bien que depuis l'Antiquité même, le dessin des statues, leur géométrie, va être réfléchi en fonction de la perspective selon laquelle on va les voir. On va éventuellement accentuer certaines proportions pour corriger un effet de perspective, ou au contraire se servir de la perspective pour magnifier une figure. Et ça, comme les détails de sculpture, rentre dans une vision globale de la sculpture comme un ornement, comme une figure qui va s'intégrer dans une vision beaucoup plus grande, à la fois simplement d'ornement, de fioritures, mais aussi de messages, évidemment, quand on est sur un édifice comme Notre-Dame de Paris ou un autre édifice religieux.
Oui, et alors vous n'avez pas fait tout ce travail de dessin et de mise en perspective puisque vous aviez déjà cette statue de Saint-Martin. Vous l'avez en fait, est-ce qu'on peut dire que vous l'avez simplement recopiée ou est-ce qu'il y a eu un travail quand même beaucoup plus approfondi pour peut-être l'améliorer?
C'est ça. Alors, je n'oserais peut-être pas employer le terme d'améliorer,
Oui, c'est
mais vous
pas.
avez tout à fait raison, il y a un travail préalable et qui est très important. On récupère cette statue, mais elle a été érodée. Elle a été sculptée il y a 150 ans, elle a subi les affres du temps, elle a été exposée à la météo avant même le problème très spécifique de l'incendie. Et on récupère une statue qui a été érodée. Saint-Martin, le pauvre, a perdu un peu ses cheveux. Il a le bout du nez un peu raboté. Il avait perdu, il y a longtemps déjà, avant l'incendie, la tête de sa crosse. La volute de sa crosse avait disparu. Donc, L'architecte a la démarche de vouloir restituer cette sculpture dans un état plus frais pour une question d'homogénéité d'ensemble par rapport à tout ce qu'on restitue autour. On a donc une mission très importante et qui est assumée chez nous par le chef sculpteur Nicolas Clerget de restituer un état antérieur d'une certaine fraîcheur, retrouver le détail des ornements, retrouver ses cheveux ou son nez, restituer le dessin de cette volute de mitre à partir non seulement d'une photographie un peu floue que l'on possède, ancienne, mais aussi avec une recherche documentaire que l'on fait pour chacun de nos travaux, hein, c'est-à-dire aller sur le bâtiment, se promener sur le bâtiment et regarder toutes les sculptures d'évêques, puisqu'il y en a
Oui.
d'autres faites à la même époque. Et là, j'insiste, c'est très important d'avoir cette démarche de documentation dans un souci d'homogénéité et de respect du créateur de l'œuvre. Donc, on va restituer des choses qui ont disparu, mais toujours en cherchant à être parfaitement dans la grammaire stylistique de l'auteur. Alors, qu'il soit un maître inconnu du Moyen-Âge ou qu'il soit un des sculpteurs de Viollet-le-Duc, dont on a beaucoup plus de dessins, de documentation et d'œuvres encore en place pour nous inspirer, le respect de l'essence même de ceux qui ont créé, du vocabulaire utilisé au moment de la création, est très important. Voilà. Et ça, c'est la première étape. On se sert pour cela d'un modelage de complément. On va venir modeler avec du plâtre ou d'autres mortiers ou de la terre les parties manquantes. Et puis, une fois qu'elles sont validées par l'architecte,
Des monuments historiques
cet
aussi, alors.
élément, voilà, c'est
Oui.
l'architecte en chef des monuments historiques, en l'occurrence Philippe Villeneuve, qui suivait la partie sculpture, hein, sur ce chantier, qui suit la partie sculpture. Et bien, une fois que cet élément ancien complété de nos modelages est validé, il devient notre modèle. Et là, l'enjeu, c'est évidemment d'en faire une copie extrêmement fidèle, au millimètre près, hein, grâce à un système que l'on appelle l'appareil de mise au point qui va permettre assez simplement, finalement, de méthodiquement reporter un point du modèle à la nouvelle sculpture, à la nouvelle pierre, pour avoir une copie parfaitement exacte et rester fidèle entièrement à l'œuvre et donc au bâtiment plus généralement.
Quel travail! Ça représente combien d'heures de travail de réaliser une seule statue, si on compte toutes les heures de recherche que vous avez faites?
Oui, alors je pense que si on compte toutes les heures de recherche et de modelage, on est un petit peu plus de 3 mois, on va dire, sur cette œuvre-là. Donc c'est quand même considérable, hein, pour une personne. Ça vient à la fois de la précision de la copie, la précision de l'œuvre aussi, qui est très très fine. Quand on copie une sculpture plus grossière, on peut être plus rapide parce qu'il y a moins de détails à aller chercher. Là, on a quand même quelque chose de très fin, de détaillé. Et puis, ça vient aussi de sa dimension, évidemment, hein. Si on vient recopier une petite tête de chimère comme celle que nous avons greffée, on en a fait une dizaine, sur les pignons, on n'est plus sur l'ordre de 2 semaines de travail. Là, on est sur 3 mois à peu près. Oui, tout à fait.
C'est impressionnant. Qu'est-ce que vous gardez de ce travail quand même œuvré pour la cathédrale Notre-Dame de Paris? Ça n'est pas rien. Comment avez-vous vécu, comment vous vivez tout ce travail avec votre équipe de l'entreprise Vermorel, de l'atelier?
C'est une aventure, hein. Clairement, c'est une aventure. Pour nous, c'est notre travail quotidien, la restauration des monuments historiques. On est en plein dans notre champ d'activité. Et pourtant, évidemment, la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle se démarque un peu. Habituellement, notre entreprise travaille sur l'Occitanie et les régions limitrophes. Il y a déjà un grand terrain de jeu, hein.
Oui,
Donc,
parce que vous
on
avez
aurait pu se limiter à
participé
ça.
à la restauration de la cathédrale de Rodez, le château de Bournazel. Donc ça, c'est en Aveyron, mais
Oui,
effectivement, vous allez un petit peu
tout
au-delà.
à fait. Et puis Notre-Dame de Paris, c'est doit être la 7e ou 8e cathédrale sur laquelle je travaille dans l'entreprise Vermorel. Donc vous voyez, on a un champ assez large. Et pourtant, quand Notre-Dame de Paris, eh bien, devant nos yeux et nos cœurs effarés, a pris feu, après un moment de stupeur et d'abattement, on a assez rapidement eu l'idée de proposer notre partenariat. participation. Et très vite, nous avons envoyé un courrier à la maîtrise d'ouvrage à l'époque pour manifester le désir de participer à ce chantier extraordinaire. Parce que Notre-Dame de Paris est forcément pour nous, comme pour tous les Français, comme pour finalement tous les gens du monde, non seulement une cathédrale, une église, mais aussi un monument qui nous dépasse et qui nous parle à tous. Et l'atelier Vermorel n'a pas fait exception, évidemment. Elle nous a parlé sur un plan professionnel parce que c'est un bâtiment hors norme, bien sûr, mais c'est aussi un bâtiment qui nous a porté d'un point de vue de relationnel, je dirais. C'était un élan particulier vis-à-vis de ce bâtiment parce que justement, il dépasse ce que l'on peut voir sur les chantiers habituels. Et on l'a
Merci.
bien vécu. D'ailleurs, on l'a
Et vous
bien
l'avez bien
vécu sur
vécu.
place.
Merci
Voilà.
beaucoup, Quentin Muller, de ce beau témoignage. Bravo pour votre travail. Et puis, nous attendons avec impatience l'installation de cette statue de Saint-Martin sur le fronton de Notre-Dame de Paris. Bonne journée!